de cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4 heures du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Mec, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel pour l'envolée version sans papier ni frontières, comme tous les premiers vendredis du mois. Alors ce soir, il y a Gaëlle avec nous.
Salut.
Margot.
Salut.
Manu, et qui ne peut pas nous parler parce qu'il est à la technique et qui va être rejoint par Mélissa.
Et puis Fred.
Et puis Fred, oui, à moi. Et vous pourrez nous réécouter comme tous les mardis, comme toutes les semaines, le mardi, à partir de 8h, donc pour être matinal. Alors ce soir, on est un peu énervé, parce que, enfin pas énervé, mais...
Stressé.
Stressé, parce que donc on attend Boilem, qui doit venir nous parler du collectif des étudiants de Paris 8 Saint-Denis, mais qui n'est pas arrivé. Bon, bah, on verra, hein, on improvisera s'il n'arrive pas. En attendant, au programme, il y a des brèves sur les divers collabos aux expulsions et à l'enfermement des sans-papiers et des autres, qui nous amènera en France, en Belgique et en Italie. On reviendra sur la révolte qu'il y a eu en février à Vincennes et le procès de personnes qui s'étaient solidarisées avec, avec les révoltés du centre de rétention. On aura quelques brèves aussi sur des centres de rétention en France comme Rennes, Cannes-Barieux, les États-Unis, alors là, c'est plus en France, les États-Unis, Mélilla, la Belgique. on doit revenir donc avec Boilem s'il arrive sur les étudiants de Paris 8. Et puis après, on parlera d'une circulaire qui a été faite par Valls avant qu'il devienne Premier ministre et qui explique à tous les préfets comment plus contrôler, plus arrêter et plus expulser.
Peut-être qu'on peut leur donner les numéros de téléphone pour nous joindre. Du coup, il y a le numéro du direct pour laisser des messages qui passeront à la fin de l'émission. Donc, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Et le numéro du téléphone portable pour nous envoyer des SMS ou nous joindre tout le reste du mois, c'est le 06 50 07 52 32. 06 50 07 52 32. Du coup, on commence avec un premier collabo, donc les sociétés de transport public, que ce soit en France ou en Belgique. On va commencer par la France avec nos amis de la SNCF.
Et oui, la Société nationale des chemins de fer français, qui a quand même une histoire de collaboration assez longue. Je ne vous la rappellerai pas. Mais en tout cas, le 27 mars 2014, c'est 85 réfugiés syriens et syriennes donc, qui ont été arrêtés devant la gare de Lyon, à la sortie d'un train, je ne sais pas d'où il venait le train, dénoncé à la PAF, certainement par la SNCF. Les flics leur ont signifié un arrêté de reconduite à la frontière qui les oblige à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Le lendemain, d'autres personnes ont été empêchées de gagner l'Allemagne par le train.
Ouais, en fait, on remarque souvent dans les contrôleurs collaborent avec les flics quoi, dans les trains. D'abord, si des gens n'ont pas de ticket et n'ont pas des papiers ou des papiers qui semblent pas en règle aux contrôleurs, et bah, ils appellent les flics pour que les flics attendent les contrevenants à la sortie du train. Et puis là, ça nous rappelle en 2011, quand il y avait pas mal de Tunisiens qui arrivaient d'Italie, qui gagnaient la France par les trains. Bah, à l'intérieur des trains, il y avait des employés de la SNCF qui étaient en liaison permanente avec la police pour que les flics viennent cueillir tout le monde à la sortie du train. Et il y avait eu plusieurs rafles de ce genre-là à la gare de Lyon, justement. Là, le train, en fait, je crois qu'il venait, il venait de l'est de la France, ce train-là. Enfin, de l'est vers Genève. Je sais que Genève, c'est pas la France, mais la frontière suisse, voilà.
Il faut penser à bien regarder quand on arrive au coin des couloirs, regarder s'il n'y a pas les contrôleurs pour avoir le temps de faire demi-tour, essayer d'identifier les gens statiques qui sont d'éventuels contrôleurs en civil, qui regardent les gens qui font demi-tour, aller voir à temps, pouvoir partir en courant, passer par un autre endroit, voilà, éviter les contrôles. Et du coup, il n'y a pas qu'en France que les contrôleurs collaborent aux expulsions, il y a aussi en Belgique, notamment à Bruxelles, où ce qui n'a pas échappé à certaines personnes qui ont produit des affiches, des fausses affiches qui ressemblent fortement aux affiches de la STIB. Donc la STIB, c'est la Société des Transports Publics de Bruxelles, donc voilà l'équivalent un peu de la SNCF à Bruxelles. Et du coup, des affiches qui imitent la charte graphique de la STIB, qui ont été collées partout dans Bruxelles, aux arrêts de trams, de métro, et à la gare du Nord notamment, et où il y a écrit « Les expulsions passent aussi par la STIB. Avec la STIB, les centres fermés n'ont jamais été aussi proches. » Donc voilà, des affiches qui mettent en avant le rôle joué par la STIB dans les expulsions des sans-papiers, parce que voilà, comme en France, il y a une multiplication des contrôles des papiers avec une forte présence policière, voilà, moitié de contrôleurs, moitié de policiers, et qui chopent les gens qui n'ont pas de papiers et qui les envoient en centre fermé. Et du coup, il y a des gens qui ont dû être inspirés par ces affiches, vu que le 11 mars, il y a un incendie qui s'est déclenché dans un tunnel de la station Panenuis à Laeken, du coup c'est une des communes de Bruxelles. Donc la station a dû être évacuée, c'est une traverse de bois apparemment qui a pris feu vers 14h30 et qui a interrompu la circulation sur la ligne. Et le 13 mars, il y a une autre perturbation sur les lignes, cette fois les lignes de tram, donc qui sont également gérées par la STIB, à Saint-Gilles, donc une autre commune de Bruxelles. Et donc cette fois, c'était un dégagement de fumée issu d'une sous-station électrique qui a perturbé la ligne. Et du coup, plusieurs lignes de tram n'ont pas pu circuler dans toute la journée. Voilà, du coup, accident ou peut-être, peut-être petit coup de pouce de personnes qui avaient vu ces affiches et qui en avaient marre de voir les contrôleurs envoyer des gens en centre de rétention et expulser des gens. Voilà, du coup...
Bah, ça nous amène à un autre collabo historique aussi. Cette fois, on va parler de l'Italie. Et en parlant de l'Italie, on va parler de la Croix-Rouge. Et c'est pareil, c'est... une longue histoire de collaboration dans l'enfermement, dans l'expulsion des étrangers et dans la gestion de la misère.
Ouais, je vais commencer par quelques brèves sur l'Italie qui n'ont pas forcément de rapport direct avec la Croix-Rouge. Mais bon, il faut savoir que la Croix-Rouge gère beaucoup de centres, donc centres d'identification et d'expulsion, c'est l'équivalent italien des centres de rétention. Du coup, la Croix-Rouge en gère beaucoup en Italie. Donc du coup, je vais commencer par Caltanissetta. Caltanissetta, le 25 mars, il y a eu dans la nuit, vers 3h du mat, il y a une quarantaine de détenus qui ont essayé de se faire la belle. Donc pendant qu'il y en avait qui escaladaient les clôtures, il y en avait d'autres qui tenaient les militaires à distance en leur lançant des pierres, en cassant les voitures avec les pierres. Et bon, malheureusement, les flics et la coopérative Auxilium, donc c'est les gestionnaires du centre, hein, dans ce centre-là, c'est pas la Croix-Rouge, ils ont réussi à empêcher l'évasion. Et voilà, a priori, il n'y aurait pas eu de blessés. Ensuite, toujours en Italie, du coup, à Bari, cette fois, le 20 mars, dans le CIE de Bari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bari? Oui, voilà, suite à cause de la nourriture, en fait, ils trouvaient que la nourriture était dégueulasse. Et en fait, ils se sont rendus compte que les ouvriers de Connecting People, donc c'est la coopérative qui gère le centre, ils ne regardaient pas les dates de péremption, ou ils ne regardaient pas, ou ils s'en foutent, et que du coup, ils avaient donné de la ricotta périmée. Ça faisait 4 jours que de la ricotta périmée était servie au repas, et du coup, la nourriture a été jetée, et il y a eu une grosse protestation, les portes de sécurité claquaient bruyamment, des dégradations, et du coup, la police et la brigade marine San Marco sont intervenues. Et suite à ça, la nourriture a été apportée, retirée de l'emballage pour ne pas pouvoir vérifier la péremption. Et, sauf que les détenus, ils n'étaient pas dupes, du coup, ils ont à nouveau refusé de manger. Et donc voilà pour Bari. Et ce même jour, le 20 mars, à Trapani Milo, donc Trapani qui est un centre, lui, qui est géré par la Croix-Rouge, il y a eu une tentative d'évasion, enfin en tout cas les clôtures qui ont été escaladées. Et pareil, c'était une protestation aussi contre les conditions, parce qu'il y avait un camion avec les produits de première nécessité, le papier toilette, les sacs poubelles, les produits ménagers, qui était censé arriver depuis une semaine et qui n'arrivait pas. Et voilà, du coup, ils ont escaladé les clôtures, ils ont lancé des poubelles, parce que finalement le camion est arrivé et qu'en fait il y avait que dalle dedans, 10 rouleaux de PQ pour 40 personnes, quelques bouteilles de shampoing, et du coup voilà, il y a eu un petit peu de bazar, on va dire, pour protester contre ça. Et suite à ça, toujours à Trapani Milo, c'est le 31 mars cette fois, il y a eu à nouveau des tensions, et donc les retenus ont escaladé la première rangée de grillage, donc toujours pour exiger ces produits de première nécessité qui n'arrivent pas et qui ne sont plus disponibles. Et il y a eu suite à ça un affrontement avec la police, pendant lequel un flic a mis un coup de boule à un retenu et lui a cassé le nez. Et oui, en fait, le centre n'était pas encore géré par la Croix-Rouge, et justement à ce moment-là, au moment de cet affrontement, il y a le directeur du centre qui a prévenu que la Croix-Rouge arrivait le lendemain. Et du coup, effectivement, la Croix-Rouge a eu un mandat direct du préfet pour intervenir dans le centre dès le lendemain pour commencer à gérer le centre. Donc, on va passer à Turin maintenant. À Turin, le centre Corso Brunelleschi, qui du coup le 11 mars, il y a eu dans la nuit du 10 au 11, il y a eu des incendies encore. Du coup, le travail était déjà bien commencé, hein, il y avait déjà pas mal de sections incendiées dans le centre de Turin. Dans la nuit du 10 au 11 mars, ça continue, des incendies. Du coup, il y a eu des interrogatoires. Voilà les retenus qui ont été. Certains retenus qui ont été isolés par les flics et puis interrogés sur ce qui s'était passé sur les sections brûlées dans la nuit et sur leur contact avec l'extérieur. Le 16 mars, Il y a les retenues de la section rouge qui ont incendié la dernière chambre qui était utilisable. Et les retenues à l'isolement qui ont commencé à casser du mobilier parce qu'ils voulaient sortir de leur cellule. Ça faisait longtemps qu'ils étaient enfermés. Et dans la soirée, la dernière chambre de la section violette qui est partie en fumée également. Et du coup, voilà, les prisonniers de la section rouge, ils ont dormi suite à ça sur des matelas dans la cour, et ceux de la violette dans la salle à manger, qui est elle-même endommagée, mais encore un peu utilisable, et sans matelas. Et suite à ça, il y a eu des personnes arrêtées, du coup, suite à ces incendies. Et du coup, il y a eu un petit dilemme qui s'est posé pour les expulseurs, vu qu'il y avait une grosse déportation de Nigérians qui était organisée au niveau européen. Donc, c'est les vols en charter qui partent d'une capitale du nord de l'Europe et qui fait tous les pays, enfin plusieurs pays de l'Union européenne pour embarquer des passagers et qui se terminent d'habitude à Rome où ils prennent tous les prisonniers italiens. Et sauf que du coup, il y avait ce vol charter de prévu. Et sauf que là, il se trouvait qu'il y avait des Nigérians qui se retrouvaient impliqués dans cette histoire d'incendie et qu'ils voulaient arrêter. Sauf que en plus, le consul avait donné les laissez-passer et tout. Du coup, ils étaient bien embêtés. Et ils ont fini par décider de les arrêter quand même et de les mettre à la prison de La Valette, donc la prison de Turin. Et pas de bol, le juge s'est rendu compte que les délais entre le moment de l'incendie et le moment de l'arrestation étaient trop longs. Du coup, il n'y avait plus le flagrant délit qui jouait. Et du coup, il a dû libérer les 6 Nigérians qui avaient été arrêtés. Et malheureusement, au dernier moment, ils ont réussi à embarquer 4 des 6. Ils ont réussi à les embarquer dans le vol, dans le charter, et à les expulser. Et du coup, les 3 autres, ils sont retournés au CIE. Du coup, il y avait parmi eux, il y avait 2 Nigérians qui avaient fait une demande d'asile et qui ne pouvaient pas être déportés, et un Tunisien. Et du coup, ces 3-là, ils vont comparaître devant le juge de la paix qui va sûrement maintenir leur incarcération au CIE. Et du coup, à Turin, il ne reste plus qu'une 30aine de personnes dans le centre d'identification. Il reste surtout les femmes qui sont dans la seule section qui est encore intacte, entière. Elles représentent la moitié des détenus. Et du coup, les hommes, ils sont installés dans une chambre de la section bleue et dans la salle à manger de la violette. Et du coup, à Turin, il y a en ce moment, c'est le... Ils sont en train de... Il y a l'appel d'offres pour savoir qui va gérer maintenant le centre de Turin. Et selon les rumeurs, il n'y a plus personne qui veut... Donc là, c'est la Croix-Rouge actuellement. Et a priori, il n'y aurait plus personne qui voudrait reprendre ce centre parce que c'est trop le bazar, il y a trop d'incendies. Et du coup, plus personne veut le reprendre. Et le centre serait peut-être amené à fermer grâce aux révoltes des prisonniers. Et en solidarité du coup avec les retenus, il y a eu un rassemblement le 15 mars composé de solidaires devant le siège régional de la Croix-Rouge. Et du coup, la Croix-Rouge était recouverte de tags. Et pendant 2 heures, il y avait donc c'était une 50aine de personnes qui étaient là avec des banderoles. Il y a eu du boucan, des prises de parole au micro et des témoignages enregistrés de l'intérieur qui étaient diffusés pour montrer voilà le rôle des Croix-Rougiens comme ils disent, donc
des croisés.
des croisés, des salariés de la Croix-Rouge, voilà leur rôle dans ces centres et comment ils participent aux expulsions. Et ce même jour, il y a eu aussi une manif devant le centre pour saluer la rage des détenus, saluer les incendies qui avaient eu lieu, et, avec des slogans, des pétards et des feux d'artifice. Et voilà.
Et ben, on va mettre un petit peu de musique avant de passer à d'autres nouvelles. Voilà.
Cette voix dégueulée sur les ondes, cette voix venue tout droit du territoire des ombres, cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons, cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge, du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter,
L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de goresse enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente, elle s'inspire de toute culture, s'inspire de tout étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale.
Sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, et donc c'est l'envolée version sans papier ni frontières. Je rappelle que vous pouvez téléphoner pour laisser des messages, notamment des messages pour tous ceux et toutes celles qui sont à l'intérieur. Le numéro, c'est le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10, et on lira les messages à la fin de l'émission. Donc, avant la musique, on était en train de parler de l'Italie et notamment de la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge, elle n'est pas nuisible seulement en Italie, elle est nuisible internationalement. D'ailleurs, il y a plein de pays où ils gèrent des prisons, notamment plein de prisons dans des pays pauvres. Et en France, ils ne gèrent pas de centre de rétention, mais ils sont très présents dans quelque chose qui s'appelle la zone d'attente. C'est dans les aéroports. Et notamment à Roissy, il y a une prison spéciale pour les gens qui arrivent d'un pays étranger et à qui on refuse le droit d'entrer en France. Donc ces gens-là sont emprisonnés plusieurs jours, 28 jours, en attendant qu'il y ait une décision sur leur avenir, à savoir rentrer en France ou être expulsés. Et souvent, on critique beaucoup ce que fait la Croix-Rouge à l'intérieur de ce centre. Et là, il a dû y avoir des licenciements, l'embauche d'une nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe, si tant est que, bon, malheureusement, ils se sont un peu fourvoyés en travaillant pour cet organisme, en tout cas, ils sont quand même un peu sympathiques parce qu'ils se sont mis en grève. Ils sont en grève reconductible. Et ils ne sont pas en grève reconductible seulement par rapport à eux, à leurs conditions de travail ou par rapport à des revendications salariales. Ils sont aussi en grève parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait, la Croix-Rouge les avait complètement mystifiés et qu'ils n'étaient pas du tout là pour aider les personnes emprisonnées, comme on leur avait sans doute fait croire, mais juste pour les gérer et puis être la caution démocratique. Et donc, dans leur revendication, enfin dans leur petit communiqué qui explique leur grève, ils nous disent « La devise de la Croix-Rouge, nous ne tolérons aucune souffrance, n'est qu'une phrase creuse. Quand on constate le silence de ses dirigeants sur ce qui se passe dans les aérogares et au centre de rétention. Les salariés veulent du respect et de la dignité pour tous, personnel et personnes maintenues en rétention, et dénoncent leur direction qui, comme n'importe quel patron, a comme seul souci de ne pas perdre un marché. » Donc c'est assez révélateur et c'est dénoncé de l'intérieur. On souhaite qu'ils n'aient pas trop d'ennuis parce qu'on sait qu'il y a quelques années, il y avait une personne de la Croix-Rouge qui avait dénoncé ce qui se passait à la zone d'attente et qui a tout de suite eu un procès, puisque quand on travaille dans ces lieux d'enfermement pour la Croix-Rouge, on signe une charte qui dit qu'on ne révélera jamais ce qui se passe à l'intérieur. En fait, ce qu'on leur souhaite à ces gens, c'est qu'ils démissionnent et qu'ils aillent trouver du boulot ailleurs. Voilà. Et puisqu'on parle de la zone d'attente Zapi 3, Gaëlle va nous en donner des nouvelles récentes.
En tout cas, ces personnes salariées de la Croix-Rouge, tant qu'ils sont là-bas, qui continuent à dénoncer ce qui se passe, moi, ça me convient très bien avant qu'ils partent.
Oui, c'est vrai.
Donc, voilà. Alors, et notamment, on a eu une petite illustration de quelques journées assez ordinaires en Zapi 3. Alors Zapi, ça veut dire zone d'attente pour personne en instance. En instance de quoi ? En instance de refoulement. C'est comme ça qu'on dit expulsion pour la zone d'attente. Voilà. Donc 3, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'était mercredi 26 février, à la zone d'attente de Roissy. Ça se passe à côté de l'aéroport de Roissy, hein, pour les personnes qui arrivent sur le territoire français par l'avion, quoi. Donc il y a 6 femmes de nationalité hondurienne et nicaraguayenne qui se plaignent donc à l'ANAFE, qui est l'association qui prodigue des conseils juridiques dans la zone d'attente. Donc elles se plaignent d'avoir été victimes de violences policières lors d'une tentative de renvoi forcé à destination de Mexico. Mexico pour des honduriennes, des nicaraguayennes, en fait. En zone d'attente, on refoule les personnes dans leur dernier lieu de transit. Donc certainement, ces femmes, elles sont passées par le Mexique avant d'arriver sur la France. C'est pour ça qu'elles seront renvoyées vers Mexico plus tard. Donc cette première tentative de refoulement donc pour ces 6 femmes, c'est soldée par contre par un échec. Parce que comme ces 6 femmes-là avaient refusé d'embarquer, le commandant de bord, qui est seul maître à bord de son navire, si je puis dire, a refusé de les convoyer, si vous m'excusez ce terme, dans de telles conditions. Donc ces femmes ont été certes bouleversées, ont décidé de porter plainte, ça je vous l'ai dit. Et elles ont aussi vu un médecin donc, qui les a examinées et a attesté de lésions multiples et d'hématomes. Voilà. De fait, dès le lendemain, donc dès le 27 février, la police en frontière tente à nouveau de refouler ces 6 femmes. Une tentative qui a encore été un échec. Puis les tentatives ensuite sont quotidiennes pour essayer d'expulser ces 6 personnes. Vient le mardi 4 mars, où la PAF parvient malheureusement à expulser l'une d'entre ces 6 femmes. Elle aurait été menottée et bâillonnée, tandis qu'une autre, en fait, ils ont réussi à en expulser 2, excusez-moi, tandis que l'autre est renvoyée la veille de l'audience qui était prévue pour elle devant le juge des libertés de la détention. Donc voilà. Le mercredi 5 mars, les tentatives pour refouler les 4 autres qui sont toujours maintenus en zone d'attente se poursuivent. Et l'une d'elles est placée en garde à vue parce qu'elle a à nouveau refusé d'embarquer. Et là, ça commençait peut-être à faire too much, en fait, pour la police. Donc, je vous rappelle que refuser d'embarquer, donc, c'est un délit. Hein, aux yeux du code pénal français. Et donc c'est cette femme qui a refusé d'embarquer était d'abord donc placée en garde à vue, puis d'un lieu d'enfermement à l'autre, hein, de la zone d'attente vers la garde à vue, et finalement condamnée par le tribunal correctionnel à 2 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction du territoire français. Voilà.
Bon, puis pour finir sur la Croix-Rouge, avec une petite nouvelle qui donne un peu du baume au cœur, au matin du 18 mars, on a retrouvé les vitres d'un local de la Croix-Rouge dans le 12e arrondissement de Paris, rue Élisa Lemonnier, avec plusieurs coups, plusieurs petites étoiles décoraient la vitrine. Et du coup, cette action faisait le lien évidemment avec la participation de la Croix-Rouge à l'enfermement, à l'expulsion des sans-papiers, et était, je cite, un petit clin d'œil aux 2 retenus condamnés pour la révolte du 14 février au CRA de Vincennes et aussi aux 5 compagnons et compagnonnes arrêtés pour avoir exprimé leur solidarité avec les révoltés. Du coup.
Ça nous amène tout droit à rappeler ce qui s'était passé à Vincennes et puis le procès qui a eu lieu cette semaine.
Oui, du coup, Vincennes, on en avait parlé la semaine dernière. Dans la nuit du 13 au 14 février, il y avait eu une révolte des retenus enfermés dans le centre de Vincennes qui ont essayé d'empêcher l'expulsion de l'un d'entre eux en se barricadant dans une chambre et en balançant des extincteurs, une porte dégondée, toutes sortes de mobilier sur la police. Malheureusement, la personne avait quand même été expulsée et 2 autres retenus avaient été placés en garde à vue pour les dégradations et pour violence sur les flics. Et suite à ça, le 14 février au soir, il y a un groupe de solidaires, une 20aine de personnes qui est venu montrer sa solidarité avec les retenus en révolte en lançant des feux d'artifice et en criant liberté. En essayant de rentrer en contact avec les gens à l'intérieur. Et suite à ça, il y avait encore eu 5 personnes d'arrêtées qui se sont fait arrêter en voiture pas loin du centre suite à ça, qui ont été également placées en garde à vue, du coup qui ont fait 48 heures de garde à vue, plus qui ont été déférées, qui sont passées, qui ont eu une audience de comparution immédiate qui a été reportée par le juge parce qu'il considérait qu'il n'avait pas assez d'informations sur l'identité des personnes qu'il avait devant lui, donc parce que toutes avaient refusé de donner leurs empreintes pendant la garde à vue, et que 2 d'entre elles avaient donné une autre identité au moment de la comparution immédiate que celle qu'ils avaient donnée pendant la garde à vue. Du coup, ces 2 personnes-là avaient été placées en détention provisoire. Ils sont restés en taule à Fleury pendant une semaine. Ils ont ensuite été libérés suite à une demande de remise en liberté, et ils sont retrouvés sous contrôle judiciaire comme les 3 autres, donc interdiction de se voir et interdiction de quitter l'Île-de-France. Donc suite à ça, il y avait une première audience qui était prévue pour le 24 mars, qui a été une deuxième fois reportée parce que fantaisie du juge, les conclusions de l'avocate n'étaient pas arrivées entièrement, il y avait eu un problème de fax, du coup il considérait que c'était trop dur pour lui de lire 16 pages dans l'après-midi et qu'il voulait plus de temps pour pouvoir préparer le procès. Donc bon, grosse blague, hein, vu qu'on sait que les comparutions immédiates, le juge a les dossiers, il les lit en 2 minutes et puis... Puis voilà, de toute façon, il envoie tout le monde en taule, il se prend pas la tête. Et du coup, ça avait été reporté, donc c'était lundi dernier, le 31 mars. Donc cette fois, l'audience a finalement eu lieu, le procès a finalement eu lieu. Le procureur a demandé la relaxe. Donc je rappelle j'ai pas rappelé les charges, les accusations. Donc il y en avait 3, il y avait attroupement armé, avec dissimulation du visage pour ne pas être reconnu. Il y avait refus de donner son empreinte génétique, donc l'ADN, et refus de donner les empreintes et la photo. Et du coup, le procureur lui-même a demandé la relaxe pour l'attroupement armé parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce que pour un attroupement armé, c'est pas... Être dans un attroupement où il y a des gens qui ont des armes, c'est être armé et être dans un attroupement. Et donc, sachant que personne n'a été trouvé avec une arme sur lui, que dans la voiture, il n'y avait rien du tout, bref, aucune arme n'a été trouvée, il ne pouvait pas qualifier, l'attroupement armé n'était pas qualifié, et du coup, le proc demandait la relaxe. Et il demandait aussi la relaxe pour le refus d'ADN, parce qu'il n'y avait rien dans le dossier qui indiquait que les flics avaient demandé l'ADN. Du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a été dit au juge. Les personnes ne sont pas exprimées sur si elles étaient là ou pas ce soir-là. Elles s'en sont tenues au fait que, vu qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de preuves dans le dossier, voilà, il n'y avait pas de raison d'être là. Et voilà, ils ont, sur la seule chose du coup qui tenait, c'était le refus d'empreinte. Donc là-dessus, ils ont tenu le fait que, bah non, ils veulent pas être fichés, ils veulent pas participer à ce dossier, au fichier des flics, qu'ils veulent pas faire le boulot des flics à leur place, voilà, ce genre de choses qui ont été tenues. Et pour revenir sur la troupe armée, quelque chose qui a été tenu par l'avocate, cette fois l'avocate de la défense, c'est que donc, non seulement il n'y avait pas d'armes parce que rien n'a été retrouvé sur les personnes, mais qu'en plus, là, ce qui est qualifié d'armes, dans ce cas-là, c'est les feux d'artifice, les mortiers, et qu'elle, elle considérait qu'on ne peut pas les qualifier d'armes, parce que si c'était une arme, c'est une arme par destination, et que pour ça, il faut prouver qu'on a voulu s'en servir comme arme, et qu'en tirant des feux d'artifice dans les airs, on ne peut pas dire que c'est une volonté de s'en servir comme arme, et que du coup, ça ne peut pas être une arme par destination. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui a été plaidé par l'avocate. Et sur les empreintes aussi, ce qu'elle a plaidé, c'est quelque chose qui ne tient pas en général en première instance. C'est que de dire que bah, si le fait principal tombe, en fait, bah, pourquoi est-ce qu'on demanderait les empreintes aux gens si finalement le fait principal dont on les accusait ne tient pas. Donc voilà, c'est quelque chose, elle a plaidé également la relaxe pour les demandes d'empreintes. Je suis pas très claire, je m'embrouille un peu.
Bon. Non, c'est clair. Enfin, je trouve ça clair.
Quoi qu'il en soit, le juge a voulu faire chier jusqu'au bout. Du coup, au lieu de rendre son délibéré le jour même, comme c'est coutume sur les audiences de comparution immédiate, il a décidé de mettre en délibération et de rendre son délibéré le 19 mai. Donc voilà, on aura plus de nouvelles par rapport au 5 le 19 mai.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont dû se rendre compte quand même que dans cette histoire, s'ils relaxaient tout le monde et où il y avait juste des amendes, qu'il y avait quand même des gens qui avaient fait de la tôle et qu'il risquait donc d'y avoir une petite dichotomie entre le verdict et ça, et le fait qu'il y ait quand même des gens qui soient restés 8 jours en tôle.
Et oui, parce que du coup, le proc a demandé la relaxe pour l'ADN et l'attroupement, et pour le refus d'empreinte, il a demandé des amendes. Voilà, des amendes, 250 € pour tous, sauf la personne. Il y a une personne qui est en récidive sur les empreintes pour qui il a demandé 500 € d'amende. Donc voilà, des broutilles par rapport, donc par rapport aux 8 jours de tôle.
Ils ont besoin de réfléchir. C'est vrai que si les gens ne sont pas condamnés à de la tôle et qu'ils ont fait de la tôle, ils pourraient demander un dédommagement. On sait qu'il est très minime. Quand on sait que des Somaliens qui ont fait 4 ans de tôle et qui ont été relaxés n'obtiennent que 90 000 €, donc pour 8 jours, c'est très minime. Mais bon, je pense que ça doit les faire chier quand même.
Et puis, vu qu'il n'y a pas grand-chose, ils préfèrent tenir le suspense et faire chier jusqu'au bout. Ouais.
Pour vous garder sous contrôle plus longtemps, hein. Enfin, ça a été dit. Je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est pour vous garder sous contrôle plus longtemps, de toute façon. Hein.
Bah là, le contrôle judiciaire, il est fini.
Ah, à partir du moment où il y a pas suivi. Encore une...
Donc, pendant la semaine de report entre le 24 mars et le 31 mars, il y avait seulement l'interdiction de rentrer en contact qui avait été conservée et l'interdiction de quitter l'Île-de-France qui avait été levée. Et là, maintenant, il y a eu un jugement. Du coup, ils ne peuvent pas maintenir le contrôle judiciaire. Du coup, le contrôle judiciaire, c'est terminé. Voilà. Et du coup, pour donner des nouvelles, les deux qui étaient les retenus à l'intérieur du centre, qui étaient en garde à vue, du coup, on l'avait déjà dit, eux, ils avaient pris 2 mois ferme chacun, plus 2 mois de sursis pour l'un d'entre eux qui avait refusé de donner son ADN, je crois, en garde à vue. Et bonne nouvelle, il y a l'un d'entre eux, Mustapha, qui a été libéré là il y a pas longtemps, il est sorti il y a pas longtemps.
Qui a été libéré cette semaine de Fleury, l'autre Boualem.
Wissam,
qui a été aussi à Fleury. Effectivement, on n'a pas de nouvelles. Ce qu'on peut dire sur Mustapha dans les nouvelles qu'il a données, quand il est sorti de Fleury là, cette semaine, c'est qu'en fait, ils étaient trois sans papier à sortir ce jour-là. Et que sur les trois, il a été le seul à réellement sortir et les deux autres ont été envoyés directement en centre de rétention. Alors, si on est optimiste, on peut se dire que peut-être la mobilisation qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même eu de la mobilisation, il y a eu vachement de monde au tribunal, il a reçu vachement de courriers, il y avait pas mal de gens en fait, qui étaient solidaires, qui le soutenaient d'une façon ou d'une autre, à payer. Après, si on est... Si on est moins optimiste, on peut se dire que peut-être que le cas des deux autres sans-papiers qui étaient avec lui était différent, qu'ils avaient une interdiction du territoire. Tout ça, on ne sait pas. Bon, retenons que la mobilisation a payé, ça nous mettra un peu en joie.
Oui, parce que comme on en a déjà parlé, qu'à Fleury, il y a une sorte de brigade de flics spécialisée dans la détection des sans-papiers enfermés et qui organise leur expulsion pendant qu'ils sont à Fleury, quoi. Du coup, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, qui sortent de Fleury libres des personnes sans papier. En général, ils sont amenés directement en centre de rétention.
D'ailleurs, cette brigade spécialisée, je projette un peu dans le temps, je voulais en parler après, mais elle est appelée à grandir. C'est en fait une brigade spécialisée qui est rattachée à la préfecture. Et elle est appelée à se multiplier et à grossir, puisque Valls, avant de devenir Premier ministre, quand il était encore ministre de l'Intérieur, a envoyé une circulaire à tous les préfets dans laquelle il dit, je cite, « Vous porterez une attention toute particulière au suivi des étrangers sortant de prison, devant être éloignés, ainsi qu'à l'exécution des obligations à quitter le territoire concernant les étrangers auteurs de troubles à l'ordre public. » Donc, il va y avoir un renforcement de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de fonctionnaires qui vont recenser, répertorier les gens qui sont en taule pour pouvoir les expulser ou les envoyer en rétention en vue d'une expulsion directement à leur sortie de prison. On va aussi donner quelques petites nouvelles de Vincennes, vraiment toutes petites, pour dire qu'il y a quelqu'un qui est sorti de centre de rétention il y a une semaine et qui racontait que bah là, l'ambiance est plus trop à la révolte collective, quoi. Chaque personne est renvoyée à son petit cas, à son petit cas, quand c'est son cas, c'est jamais son petit cas, à son cas individuel, et donc à son angoisse sans arrêt d'être appelé pour être expulsé, et qu'il y a énormément de tentatives de suicide, de pendaisons, qui ne réussissent pas, heureusement, mais en ce moment, voilà. On remarque souvent ça, quoi, que dans les moments où les gens ne sont pas ensemble, n'essayent pas de lutter ensemble, c'est beaucoup le désespoir qui reprend le dessus. Et puisqu'on parle du centre de rétention de Vincennes, on va aller un peu plus au sud, au centre de rétention de Cornbarieux, qui est donc à côté de Toulouse, où on a eu quelques nouvelles d'un début de lutte collective.
Ouais, c'est le 27 mars. Donc à Cornbarieux, il y a eu des tensions, une altercation apparemment entre les retenus et une équipe de flics. Et il y a une quarantaine de retenus qui ont commencé une grève de la faim. Mais bon, voilà, on n'a pas plus de nouvelles pour le moment. Et une autre grève de la faim, cette fois beaucoup plus massive et un peu plus loin, vu que ça se passe aux États-Unis. C'est dans le centre de Tacoma, dans l'État de Washington. Depuis début mars, il y a 1200 retenus du centre qui sont en grève de la faim pour protester contre leurs conditions de rétention, contre leur enfermement et pour demander la rémunération du travail des retenus dans le centre, parce qu'ils travaillent là-bas, c'est pas comme en France, ils travaillent à l'intérieur des centres. Du coup, c'est un centre, Tacoma, qui enferme 1300 personnes. C'est le Northwest Detention Center, ça s'appelle. Et du coup, sur les 1300, 1200 personnes qui sont en grève de la faim. Donc c'est un centre qui est géré par l'entreprise Geogroup, qui est spécialisée dans l'enfermement, donc que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Donc l'enfermement des sans-papiers, l'enfermement des mineurs, et qui gère aussi des hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, c'est leur dada, sympathique.
Je crois qu'ils sécurisent du nucléaire aussi. Enfin, ils font un tas de trucs hyper sympathiques, ces gens.
Voilà, Geogroup. G-E-O Group.
Il n'y en a pas en France.
Et du coup, voilà, Les géogroupes, ils les ont menacés d'alimentation forcée, mais ça a tenu quand même. Ils ont tenu leur grève tout le mois de mars, et il y a plusieurs personnes qui sont un peu dans un état de santé critique, qui sont sous assistance médicale. Il y en a 70 qui ont rejoint la grève fin mars. Et dans un autre centre aux États-Unis, au Texas cette fois, il y a également une grève de la faim qui a commencé. Donc c'est un centre qui est géré par la même entreprise, Géogroup, toujours, je répète, et donc qui protestent contre leur enfermement et les expulsions. Et du coup, il y a eu aussi de nombreuses manifestations et actions à l'extérieur de personnes solidaires. Donc il y avait une manif qui était appelée devant le centre de Tacoma le 11 mars, par exemple. Il y a eu aussi des manifs en Arizona, voilà, contre l'existence même des centres de rétention, et en solidarité avec tous ces retenus en grève de la faim. Et également à Seattle, le 28 mars, il y a eu la banque Wells Fargo qui a été attaquée à coups de pierre. Et donc c'était en solidarité avec les sans-papiers de Tacoma, les sans-papiers en lutte, encore une fois. Et ben, on va écouter un petit peu de musique.
Il pleut, il pleut, il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons. Envolé les machines, au Maroc ou en Chine. Et nous là, comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus. Qu'on allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains. Condamné à la casse, tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. Avec des jolis mots, égalité, justice, solidarité, dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir, mais tu les as trahis. Dès que tu as eu le pouvoir, il pleut, il pleut, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Des sans droits, des sans voix, des damnés de la terre, des Roms désignés comme bouc émissaire, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur. Aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés aux turbins, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Dégage, 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 dégage. Allez, qu'ils s'en aillent tous. Rentre tes noirs moutons, tes éminences grises et tes voyous patrons. Les gardiens de ton ordre, les faillots de ta cour et les écrivaillons qui pondent tes discours. Ô ministres zélés, sinistres exécutants, ni oubli ni pardon pour la chasse aux enfants. Abat les lois racistes, abat les circulaires, les contrôles aux faciès pour remplir vos charters. Il pleut, il pleut, il pleut, il n'y aura pas de rattrapage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Remballe ton triple A, ta dette et tes marchés, ta bourse et tes traders, tes parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre notre monde est possible et nous n'acceptons pas d'être des invisibles. Car nous sommes le peuple, celui qui crée l'histoire. Fils de 89, rebelles et communards, dont les insurrections ont forgé nos consciences. Un peuple qui se lève et entre en résistance. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage.
Alors vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel et vous pouvez toujours téléphoner pour laisser vos messages en direct, que nous lirons à la fin de l'émission, au 01 40 05 06 10. Et donc là, nous écoutions une spéciale dédicace à Clément, Dominique Grange, dégage, 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 vous l'aurez compris.
Et puis je rappelle aussi le numéro de téléphone portable pour nous envoyer des SMS et nous joindre tout le reste du mois, c'est le 06 50 07 52 32. 06 50 07 52 32. Et puis je fais un petit coucou à Carla, si jamais tu nous écoutes, qui nous a quittés pour retourner dans sa contrée turinoise. Et voilà.
Notre chroniqueuse italienne.
Et pour revenir sur Vincennes, voilà, pour être tenu au courant, donc par rapport au rendu du procès qui sera le 19 mars, vous pouvez consulter le blog sanspapiersnifrontieres.noblogs.org. sanspapiersnifrontieres.noblogs.org. Donc sans papier ni frontières, c'est tout attaché avec un S à papier et un S à frontières. Voilà, maintenant on va passer
Amélie là, en Espagne. Là.
Et on retrouve Manu, dont la voix vous manquait tant.
Bonsoir. Alors, du coup, on va parler un peu de ce qui s'est passé à Melilla, parce que là, il y a eu des nouveaux assauts de la frontière, on en a déjà beaucoup parlé. Donc Melilla, petite enclave espagnole au Maroc, point de passage de migrants et point aussi de contrôle et de répression et de tentatives d'empêcher de la part des gouvernements espagnols, marocains et de l'Union européenne de tenter d'empêcher des gens d'entrer dans l'Union européenne. Et donc, le 18 février dernier, plus de 500 migrants ont réussi à entrer à Melilla après un nouvel assaut de la clôture. Donc, clôture qui est en fait trois rangées de grillages avec des barbelés et puis récemment augmentée de lames de rasoir. Et donc 500 personnes rentrent, il y avait plus d'un millier de personnes qui ont participé à l'assaut, donc ça veut dire qu'il y a 500 autres personnes qui n'ont pas réussi à rentrer. Et les 500 ont été enfermés ensuite par la police garde frontière espagnole dans le centre d'accueil temporaire pour immigrés, donc son nom accueil et tout ça, mais en fait pas du tout, c'est un centre de rétention. Et voilà, lui aussi d'ailleurs géré par la Croix-Rouge, puisqu'on en parle. Et il y a eu pas mal, à chaque assaut en ce moment, là, il y a des articles de journaux, parce que donc, c'est le grand dada des journalistes en ce moment espagnols, et aussi des ministres, etc. Et du coup, on a appris par exemple que dans ce centre, il y avait plus de 1400 personnes qui étaient enfermées en ce moment, pour 400 places. Et donc, en parlant des politiciens qui se réunissent et tout ça, il y avait le 27 mars dernier des représentants des villes de Ceuta et Melilla qui s'étaient réunis pour demander plus d'aide de la part de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration. Et ce même jour, un millier de migrants ont de nouveau tenté de passer la frontière, sauf que en fait, il y avait un dispositif de police de ouf, plus important que d'habitude apparemment. Étant donné qu'il y avait la réunion, ça doit avoir un rapport. Et ils ont fait demi-tour. Mais le lendemain, il y a 800 personnes qui sont reparties à l'assaut de Melilla. Et cette fois-ci, ils ont fait plusieurs groupes pour essayer de se répartir plus le long de la frontière pour avoir plus de chances de passer. Il y a seulement une dizaine de personnes qui ont réussi à passer. Mais en fait, ceux qui ont échoué, il y en a beaucoup qui sont restés. Donc en fait, il y a trois rangées de barrières. Donc ils sont restés tout en haut des grilles de la frontière, mais côté espagnol. Et qu'on applaudi ceux qui avaient réussi à passer et qu'on conspuait les flics espagnols. Et il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont restés proches des grilles du côté marocain et qu'on fait la même chose. Et donc, on a appris ensuite que les flics marocains étaient rentrés dans la zone frontalière, mais côté espagnol, pour déloger donc, les migrants qui étaient en haut des grillages et qui les ont ramenés, côté marocain, en fait. Donc voilà, avec la complicité des flics espagnols, du coup, les flics marocains sont rentrés en Espagne avec armes et bagages pour virer,
déloger... Et sans visa, c'est quand même ça qui est scandaleux.
Pour déloger du haut des grillages les migrants qui étaient restés là-haut alors qu'ils étaient en fait côté Espagne.
Oui. Tu parlais de centre d'accueil, ça me fait penser que j'ai oublié une petite nouvelle sur l'Italie qui est quand même réjouissante, du coup je vais en profiter pour la dire. Donc c'est dans le centre d'accueil, donc pareil, hein, d'accueil entre guillemets, de Rovereto, donc c'est dans la province de Trente en Italie. Il y a eu une évasion collective de 39 personnes qui étaient arrivées le samedi 21 mars et ils sont fait la belle même pas 4 jours après. Et du coup, le lundi, il en restait qu'un seul à l'intérieur de la structure sur les 40 qui étaient arrivés. Tous les autres ont préféré la liberté plutôt que la Croix-Rouge, voilà. Encore une fois, la Croix-Rouge, donc, qui gère ce centre d'accueil, et les militaires alpins qui le surveillent. Et voilà, ils ont préféré se faire la belle. On leur souhaite bon vent.
Oui. Eh bien, petit retour en Belgique. Ça se bouge bien en Belgique, hein, vous en parlez déjà tout à l'heure. Et là...
C'est comme en Italie, la Belgique. Hein,
Bon, bah oui.
Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais...
Prenons-en un peu de graines. Alors, pour vous faire une petite chronique sur ce qui s'est passé donc le dimanche 16 mars, on vous en parlait déjà le mois dernier. Donc le dimanche 16 mars, il y a eu une manifestation pour la fermeture du centre fermé de Votem près de Liège. Pour rappel, c'est un centre c'est une prison pour étrangers ouverte depuis 1997. Donc la manif est partie de l'enclos des fusillés, la citadelle, qui est leur haut lieu de la résistance du passé, comme ils disent là-bas, jusqu'au centre fermé donc de Votem. Parmi les messages arborés ce jour-là, on a pu lire pas de frontières, pas de nation, stop aux états-prisons et aux expulsions sur une banderole. Kaboul is not safe. En référence aux expulsions vers l'Afghanistan, qui est considéré aujourd'hui comme un pays sécurisé. On a pu lire aussi « Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger ». Et enfin, Anaé portait autour du cou une pancarte « Libérez mon tonton et ses amis ».
C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dangereux qu'ils sont en danger. Non, enfin, je ne sais pas, c'est souvent une question que je me pose quand j'entends ce slogan, mais bon.
Thèse, antithèse, synthèse, vous avez 3 heures.
Soyons dangereux.
Certes. Donc cette marche a rassemblé un petit millier de personnes, on va dire. Et en bref, il y a eu donc beaucoup de bruit pour se faire entendre des prisonniers qui étaient vraiment juste à côté quand on est arrivé au centre de Votem. De la musique, des pochoirs, des tags sur les murs d'enceinte, feu aux prisons, no border, no nation, etc. Des prises de parole que j'ai pas trop écoutées, j'avoue. Que j'ai pas trop écouté parce que justement ça commençait à bien se motiver juste à côté, quoi. Ça tambourinait sur les grilles de façade et tout machin. Il y a eu destruction d'une grille d'enceinte extérieure avec envahissement par les personnes donc rassemblées là pour aller encore plus près d'une deuxième grille d'enceinte en fait. un déploiement de forces de l'ordre en tenue anti-émeute et un canot à eau qui a été utilisé une fois. Donc, ce qui fait que ça nous a pas mal fait reculer, malgré bon, la résistance qu'il y a eu. Mais, donc, ça nous a quand même un peu fait reculer et sortir de cette enceinte-là, qu'on avait, de ce petit espace qu'on avait réussi à gagner en direction des retenues. Il y a eu des réponses des prisonniers par des cris et des tissus qui ont été sortis aux fenêtres, notamment. Et la manif, finalement, s'est lentement dispersée avant qu'on ait pu brûler le centre ou fermer définitivement le centre fermé. Bon, ça, je le regrette. Mais pour finir, de manière extraordinaire, je vous propose une petite page de publicité pour un petit fascicule édité par le collectif de résistance au centre pour étrangers. Donc... Qui mène des actions autour du centre fermé de Vautem depuis sa création en 1997. Et donc, il s'agit d'un petit livret qui s'appelle « Pour en finir avec Vautem, toutes les prisons pour sans-papiers et les déportations », qui regroupe en fait des petites images de bande... Enfin, c'est pas une bande dessinée, mais c'est chaque fois des images dessinées. Sauf qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste à chaque fois un croquis, quoi, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Je vous laisse le courriel, racpe@skynet.be. 4 euros ou plus si on veut, pour contribuer à acheter et distribuer des recherches téléphoniques aux prisonniers de Vautem.
Et une petite dernière brève sur la Belgique, une semi-bonne nouvelle du 127 bis, donc un des centres fermés de Belgique. Il y a eu 6 retenus qui ont été hospitalisés suite à une intoxication alimentaire dans la nuit du 21 mars. Donc une intoxication qui était encore une fois liée à des repas périmés. Il n'y a pas de petit profit pour les entreprises qui gèrent les centres. Et le lendemain, ils sont sortis de l'hôpital, sauf qu'il y en a 2 d'entre eux qui ont réussi à profiter de l'hospitalisation pour se faire la belle. Donc voilà, ça fait plaisir.
Mais on va dire vive les repas périmés avec cette histoire. Attends, c'est une bonne nouvelle, oui, effectivement. Et bah, un petit peu de musique.
door. It's the suede denim secret police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're the nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Something's already that. You will grow, you little clown. When you mess with President Brown. When you mess with President Brown.
Alors après ce petit morceau tonique des Dead Kennedys, California Uber Alles, on va passer à Rennes et vous êtes bien toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel dans l'envolée version Sans Papiers ni Frontières, 106.3 FM et vous pouvez toujours nous appeler pour laisser vos messages au 01 40 05 06 10. À toi Margot.
Ouais, du coup on va parler un peu de Rennes vu que bon, Boilem devait venir pour parler du collectif... Collectif des étudiants sans papier de Paris 8, l'université à Saint-Denis, et que bon, il n'est pas présent, mais on avait quand même préparé une petite rubrique pour alimenter voilà, la rubrique lutte lycéenne et étudiante contre les expulsions. Et du coup, on va vous parler de Rennes. Donc déjà, je vais parler un peu de ce qui s'est passé au mois de mars autour du centre de rétention de Rennes. Le 12 mars, il y a eu un mouvement à l'intérieur du centre, un mouvement de protestation des retenus. Donc ils ont sorti les matelas dans la cour et ils ont refusé de manger et de rentrer en cellule. Et le mobilier des cellules a été démonté et entassé dans les couloirs. Et il y a eu un parloir sauvage d'une dizaine de personnes à l'extérieur. Et on n'a pas eu plus de nouvelles. Et le 22 mars, il y a eu 250 personnes cette fois qui ont manifesté depuis l'aéroport de Rennes jusqu'au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Lande, donc le centre de rétention de Rennes, contre les expulsions et les centres de rétention. Et sur les grilles du centre, les expulseurs avaient installé des bâches pour empêcher les parloirs sauvages, donc pour masquer la vue entre l'intérieur et l'extérieur, vu qu'il y avait eu beaucoup de parloirs sauvages ces derniers temps, enfin de manière régulière en tout cas. Et ensuite, le 26 mars, cette fois, donc, les étudiants qui ont commencé à se bouger, il y a eu tout un mouvement contre l'expulsion d'Ali Touré, donc un étudiant sans papier guinéen, qui s'était vu refuser son renouvellement de titre de séjour par la PREF et qui s'était vu délivrer une OQTF en novembre dernier, qui avait été confirmée par le tribunal administratif en février. Et le 25 mars, il a été placé en rétention et on lui a annoncé que son expulsion était prévue pour le lendemain depuis l'aéroport de Roissy. Et du coup, y a ses petits camarades étudiants qui se sont bougés pour protester contre son expulsion et protester contre les expulsions en général, contre les expulsions de sans-papiers. Et du coup, il y a eu plusieurs actions qui ont eu lieu. Et du coup, je vais vous lire un communiqué qui a été rédigé à propos de cette agitation contre les expulsions de sans-papiers. Et voilà, qui, je pense, résumera mieux que moi ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça s'appelle « Apeuré et dos au mur, la gauche unie face à sa politique raciste ». Et c'est entamé par une petite citation d'Arthur Rimbaud qui date de mai 1871 qui dit « Tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré ». Ali Touré, étudiant à Rennes, assigné à résidence depuis janvier, a été incarcéré en centre de rétention administrative lundi dernier. Son expulsion était prévue jeudi. Grâce au rapport de force que nous avons réussi à imposer en ces 3 jours de lutte, Ali est libéré. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais entre-temps, Ali a été libéré grâce à la lutte. Du coup, je continue le communiqué. Mercredi, à l'annonce de son expulsion imminente, des étudiants se sont réunis et ont organisé les débrayages de Rennes 2 et du lycée Coët-Logon. L'objectif était d'occuper la préfecture de Beauregard pour exiger la libération et la régularisation immédiate d'Ali. Elle fut investie au cri de « des papiers pour tous ou pas de papiers du tout » et le mobilier réorganisé afin d'y tenir une AG. Une banderole contre l'État policier a été accrochée au plafond, celle-là même qui avait été brandie par les lycéens lors du mouvement contre les expulsions de l'automne dernier. Comme on pouvait s'y attendre, les brigades d'intervention et brigades anticriminalité finirent par nous repousser violemment à l'extérieur, non sans résistance de notre part. Déterminés à ne pas en rester là, nous avons alors décidé d'amener le débat politique là où il n'est pas. C'est-à-dire dans le simulacre de débat qui devait se tenir entre Appéré et Chavana, organisé à l'Institut d'études politiques. Donc Appéré et Chavana qui étaient des candidats aux municipales. À une centaine, nous avons empêché ce récital électoral, consensuel dans son soutien aux expulsions et au racisme d'État, en scandant « Libérez Ali ». Un camarade saisit l'occasion pour interpeller Appéré et lui demander de se positionner. En vain. L'agitation a persisté jusqu'à l'annulation du débat. C'était décidément une sale journée pour Appéré. Nous imaginons son visage se décomposer lorsque, plus tard dans la soirée, elle a appris que 200 personnes avaient forcé les portes d'entrée de son meeting « Salle de la Cité » pour exiger l'arrêt de toute expulsion et la destruction de tous les centres de rétention. En effet, notre camarade Ali n'est que l'un des 30 000 immigrés expulsés chaque année par les pouvoirs de droite comme de gauche. Pendant plus d'une heure, nous avons tenu la tribune, empêchant les carriéristes de la pseudo-gauche, Front de Gauche, EELV, Europe Écologie Les Verts, PS et compagnie, de tenir leur discours électoraliste. « Vous êtes de gauche, prouvez-le » criait-on à la salle pendant que quelques militants dépassés essayaient désespérément d'atteindre le micro. Finalement, Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, protégé par des notables s'improvisant gros bras pour l'occasion, tentait un discours pathétique en insistant sur la supposée absence de crédibilité de notre action. Et ce, alors même que la crédibilité de la gauche locale a été définitivement écornée lorsque nous avons révélé la parfaite hypocrisie de leur communication électorale. Une fois de plus, la gauche unie de Rennes nous accusait de faire le jeu de la droite et du FN, alors même que le gouvernement actuel se vante d'avoir expulsé davantage d'immigrés que son prédécesseur. Nous affirmons au contraire que le FN n'est pas une verrue sur le beau visage de la République, mais la déclinaison la plus autoritaire et réactionnaire de l'ordre républicain. Quant à ceux qui pleurnichent sur notre peu de respect du droit et de la démocratie, nous leur répondons que l'état de droit et la démocratie libérale se définissent précisément en établissant une extériorité dans laquelle sont rejetées les personnes jugées indignes d'avoir des droits. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de partis qui se disent proches des travailleurs tout en permettant la surexploitation des ouvriers sans papier. Nous méprisons aussi leur discours incantatoire à propos de la citoyenneté, alors qu'ils n'ont même pas été capables en plus de 30 ans de tenir leur promesse misérable de donner aux étrangers le droit de voter aux élections locales. La constante augmentation de l'abstention prouve que, depuis longtemps, beaucoup ne croient plus aux promesses de cette fantomatique gauche unie ou à l'espoir d'un front républicain. En empêchant leur meeting d'union sacrée, il s'agissait pour nous de rappeler que ce soi-disant rempart contre la montée du FN n'est que la façade de leur politique de défense du capitalisme en crise et de sa nécessaire composante sécuritaire. Malgré le chantage d'Appéré proposant un hypothétique rendez-vous en échange de notre départ, nous avons décidé de poursuivre la lutte jusqu'à la libération et régularisation effective d'Ali, refusant de participer aux stratégies politiques habituelles. Face à notre détermination, contraints et forcés, ils ont quitté la salle. Le meeting fut annulé. Pas de négociation avec les expulseurs. Jeudi, décidant de continuer la stratégie d'occupation des lieux de pouvoir, nous avons tenté de rentrer dans la mairie. Trouvant porte close, nous avons occupé son annexe. L'action fut animée par des discussions sur les perspectives de la lutte, sur la légitimité de nos moyens d'action et sur la condition quotidienne des sans-papiers. Vendredi, le tribunal administratif statuait sur le cas d'Ali. Il allait être libéré. Un rassemblement regroupant une centaine de personnes s'était tenu devant un tribunal protégé par un important dispositif policier. Ces trois jours ont une nouvelle fois montré qu'il n'y aura rien à attendre d'hypothétiques négociations avec les politicards en place. Seule la lutte paye. Attendez-vous à de nouvelles actions tant que les expulsions continueront. Et c'est signé étudiante, lycéenne, chômeureuse, travailleuse, en lutte contre toutes les expulsions.
Eh ben, c'est un très beau communiqué, je trouve, et une très bonne analyse politique de ce qui se passe en ce moment. Et on peut se dire que ce qui est bien, c'est que en fait, c'est suivi de faits, étant donné que cette semaine, notamment en Bretagne, que Ali Touré a été libéré. Mais là, on sait que, notamment en Bretagne, mais aussi ailleurs, il y a plusieurs mobilisations contre des expulsions, mais aussi contre le fait que des gens côtoyés tous les jours, par exemple dans l'enceinte d'un lieu de travail, dans le voisinage, dans un établissement scolaire, soient sans papier. Et il y a eu notamment cet après-midi une manif assez importante à Saint-Nazaire de lycéens et lycéennes par rapport à leur camarades sans papier. Il y en a eu une autre dans une autre ville de Bretagne qui s'appelle Quimperlé, je crois. Enfin, il y en a eu un certain nombre et donc c'est pas mal. Et il y en a eu aussi à Paris dans le 19e, mais pas cette semaine. Et c'est assez révélateur aussi sur les politiques, puisque dans un lycée professionnel du 19e arrondissement, il y a un lycéen qui a été arrêté dans une opération de contrôle d'identité, comme ils disent, une rafle donc à Gare du Nord, et qui est passé par la case garde à vue et qui a été au centre de rétention de Vincennes. Très vite, les gens autour de lui se sont mobilisés, ses camarades, des profs et puis des militants et militantes du réseau Éducation sans frontières. Et ça a commencé à faire pas mal de bazar avec l'annonce d'un rassemblement. Et là, très vite, des élus qui ont été interpellés par, non pas par les lycéens et lycéennes, mais par divers adultes, se sont mis à intervenir auprès du préfet, etc., arguant aussi, enfin fort de la mobilisation qu'ils avaient derrière eux, du rassemblement qu'il y allait avoir. Et le préfet, donc, a libéré le lycéen. Mais qu'à cela ne tienne, plusieurs personnes ont dit bah, on maintient le rassemblement, d'abord parce qu'il n'est pas seul dans son cas, il y en a plusieurs autres qui sont sans papier, et puis parce que certes il est libéré, mais il est toujours dans la merde, il est toujours sans papier. Donc le rassemblement a été maintenu, et là, très étrangement, plusieurs des élus qui avaient été interpellés pour intervenir, c'est-à-dire en passant des coups de fil et en écrivant des lettres, ont dit bon bah puisque c'est comme ça, il a été libéré, donc il faut annuler le rassemblement. Le préfet lui-même a dit, je cite, qu'il a dit on vous a fait un cadeau. Mais si vous maintenez le rassemblement, on ne fera pas le même cadeau la prochaine fois. Donc voilà, du chantage, des menaces. Et donc diverses partis politiques, notamment le PS, ont fait circuler la fausse rumeur comme quoi le rassemblement était annulé, donc tout bonnement et simplement. Et le rassemblement s'est quand même tenu, il y avait pas mal de flics. Et voilà, mais c'est assez éclairant sur le fait que ce que souhaitent ce qu'on appelle les pouvoirs publics, c'est tout simplement qu'il n'y ait pas de vague. Alors effectivement, quand il y a un peu de vague, bah, ils peuvent de temps en temps libérer une ou deux personnes. Mais le message qu'il faut passer, c'est qu'on ne peut pas se contenter de une ou deux personnes qui soient libérées, d'une ou deux personnes qui soient régularisées, que ce qu'on veut, c'est effectivement plus de papier du tout ou des papiers pour toutes et tous. Voilà.
Et il y a eu une autre manif aussi à Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire, le 1er avril. Donc une manif lycéenne, 250 lycéens du lycée du Gast de Chalon qui sont descendus dans la rue contre l'expulsion de deux d'entre eux qui sont sous OQTF. Et du coup, voilà, ils ont marché depuis le lycée jusqu'à la sous-préfecture de Chalon. Et donc, tout ça, ça fait penser à ce qui s'est passé là, à la fin 2013 sur Paris et ailleurs, les mobilisations lycéennes qui avaient été déclenchées par l'expulsion de Kachik et Leonarda, mais qui étaient contre toutes les expulsions et qui d'ailleurs continuent, vu que le collectif qui s'était monté sur Paris, le MILI, je ne sais plus le deuxième mot, des lycées indépendants, mais c'est quoi le deuxième mot, je ne sais plus. Bon, le MILI, en tout cas, il continue de se bouger, et d'ailleurs, on aimerait peut-être les voir dans cette émission, peut-être le mois prochain, on ne sait pas, on va essayer de les contacter. Voilà, et du coup, il y a une manif...
Dimanche, à 14h, à Nation, contre Valls.
Voilà, bon, c'est contre Valls, nous on pense que les politiques c'est tous les mêmes, mais bon, c'est cool qu'il se passe des choses, et des choses contre les expulsions et les centres de rétention. Et ça fait plaisir de voir que les lycéens, les étudiants, ils se bougent partout en France sur ces questions-là, quoi.
Bah, à propos de Valls, d'ailleurs, on va un peu parler de la circulaire qu'il a envoyée fin mars ou fin février, je ne sais plus, à diverses préfectures, enfin à tous les préfets. Une circulaire qui donc leur intime d'expulser plus, d'arrêter plus et d'expulser plus. Alors évidemment ici, nous on n'a jamais cru qu'il allait avoir un changement quelconque avec le PS ou on va même dire un changement quelconque par les urnes, mais bon bref, passons. En tout cas là, on en a vraiment la conviction. Alors donc dans cette circulaire, je rappelle qu'une circulaire c'est pas une loi, c'est en fait un texte qui est envoyé à des administrations pour leur donner des directives, pour leur donner des ordres, quoi. Donc déjà, ça commence par des félicitations, puisque on dit que, enfin, des félicitations pour eux, ils se disent que le niveau total des éloignements forcés a atteint son plus haut niveau depuis 2006. Donc on est content de l'apprendre, 2013, c'est là où il y a eu le plus d'expulsions. Quelques exemples. Pas seulement d'expulsion d'ailleurs, quelques exemples. 203 filières d'émigration clandestine ont été démantelées, donc plus 14% par rapport à 2012. Et ces démantèlements ont donné lieu à l'arrestation de 1500 personnes, donc plus 15% par rapport à 2012. Ça travaille donc. Et concernant les expulsions, il y a eu une hausse de 13%, donc soit 4676 expulsions contraintes hors Union européenne. Ça veut dire que, en fait, ne sont pas comptabilisées les expulsions à l'intérieur de l'Union européenne. Par exemple, quelqu'un qui est passé par la Pologne et qui va être expulsé, enfin reconduit, comme ils disent, en Pologne. Donc 4676, c'est vraiment le nombre minimaliste. Alors, je ne sais plus où j'en suis, mais donc il est dit. Alors je vais citer quelques petites choses et dire ce que ça voudra dire sur, dans les faits. Il est dit que donc l'administration préfectorale et les services de police et de gendarmerie doivent poursuivre les efforts entrepris pour mieux identifier les filières d'immigration clandestine et les mettre hors d'état de nuire. Il est en effet du devoir de l'État de faire cesser les activités de ces réseaux qui profitent de la détresse humaine. Alors là, on se dit, nous, qu'il y aurait quand même une solution qui pourrait être hyper simple. C'est sûr que s'il y avait plus de visas ou si carrément il n'y avait plus de frontières et si tout le monde pouvait circuler comme il voulait, bah, il n'y aurait pas, de réseau, de filière, comme ils disent, de filière d'immigration clandestine. Ça serait très, très simple à prendre comme mesure. Mais bon. Il est dit que la présence effective des forces de l'ordre doit être renforcée pour effectuer les contrôles d'identité, des contrôles d'identité et des interpellations nécessaires. Alors, ça veut dire, évidemment, bah, plus de contrôles, c'est-à-dire plus de rafles, parce que évidemment, pour expulser plus, puisque c'est toujours cette même logique, hein, les 13% plus, les meilleurs chiffres depuis 2006, ça veut dire que l'objectif, c'est effectivement d'expulser plus, sans doute pour montrer au FN que, bah oui, hein, on fait aussi bien qu'eux. C'est toujours cette même logique. Il est aussi dit au préfet que un petit problème au niveau des laissez-passer consulaires. Alors je rappelle vite fait ce que c'est les laissez-passer consulaires. Les laissez-passer consulaires, c'est en fait quand quelqu'un est arrêté pour être expulsé vers son pays d'origine, il y a besoin que les autorités de ce pays délivrent un papier qui s'appelle un laissez-passer. Et quand il n'y a pas ce papier, bah, évidemment, la personne ne peut pas franchir les frontières, même s'il y a des flics autour d'elle. Et donc, il y a pas mal d'expulsions qui sont évitées à cause de ça, notamment parce que les gens résistent, ils refusent par exemple de parler au consul pour qu'on ne reconnaisse pas leur langue, etc. Et donc ça pose un problème. Et on sait très bien que ça pose un problème parce que d'ailleurs, de plus en plus de gens maintenant sont condamnés à des peines de prison ferme juste parce qu'ils refusent de parler au consul, ils refusent de voir le représentant du consulat. Et donc c'est considéré comme une obstruction à leur expulsion. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés à de la prison. Donc ça, on peut imaginer qu'il va y avoir de plus en plus de répression à ce niveau-là. Alors la cible, une des cibles de Valls, c'est aussi, de Valls et les autres évidemment, c'est les demandeurs d'asile, puisque là, problème pour eux, c'est que beaucoup de gens à qui l'asile est refusé, on leur délivre pas tout de suite d'OQTF, on leur délivre pas tout de suite d'obligation à quitter le territoire. Donc la circulaire demande à ce que dès qu'une décision de refus d'asile advienne, on puisse délivrer une OQTF, ce qui va permettre après d'enchaîner plus rapidement vers l'expulsion. Pour que ça se fasse de plus en plus rapidement, il y a l'aide de l'informatique et du fichage. Et donc, il y a une application informatique qui s'appelle Telem Ofpra, qui permet à chaque semaine aux flics de connaître les décisions de l'Ofpra. Donc, ils peuvent suivre en direct les décisions concernant les refus de demande d'asile. Et comme ça, aussi directement qu'ils connaissent ces décisions de refus, ils peuvent délivrer les OQTF et puis enclencher la machine. Donc là, on est un petit peu pressé par le temps parce que il y a des messages et puis quelques petites choses dans l'agenda. Mais la logique, c'est toujours de mettre plus de pression, plus de répression. C'est aussi en fait quelque chose dans cette circulaire, ça avalise des pratiques qui avaient déjà lieu. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui vont être expulsés vers leur pays d'origine, même s'ils ont un titre de séjour, par exemple, dans un pays de l'Union européenne. Et ça fait assez longtemps qu'on voit ça. Par exemple, des gens qui ont des papiers en Espagne ou en Italie et qui donc pourraient être expulsés en Espagne ou en Italie, ce qui est quand même vachement plus pratique pour revenir, mais aussi vachement plus pratique en général. Et malgré le fait qu'ils aient ces papiers, ils sont expulsés vers leur pays soi-disant d'origine. Et donc, dans sa circulaire, Manuel Valls demande à ce que ça, ce soit une logique qui soit renforcée. Et ça fout aussi beaucoup les gens dans la merde. Il y a pas mal de choses aussi sur les assignations à résidence, donc que dès que les gens ont une mesure que le délai de contestation de leur OQTF est dépassé, qu'ils soient assignés à résidence et qu'au terme de leur assignation à résidence, il y ait des mesures coercitives qui soient prises pour pouvoir les expulser. Donc voilà, enfin toujours une logique qui est d'expulser plus, d'enfermer plus, comme là en fait on parle des sans-papiers, mais c'est une logique qui est évidemment générale dans la société. Je m'arrête et on va donner le message qu'il y avait. Donc allô Manu, tu nous donnes le message?
Oui, il y a un message d'Inès pour Marina. J'ai bien reçu ta deuxième lettre et je te réponds au plus vite.
Ok. Et puis on passe à l'agenda du coup, c'est ça. Du coup, on voulait annoncer, il y a Amadou dont on avait écouté un entretien il y a quelques mois, là, 2 mois peut-être, du Amadou du collectif des Barras à Montreuil, donc collectif de sans-papiers à Montreuil, qui joue dans une pièce de théâtre qui va passer lundi et mardi à Montreuil. Donc voilà, du coup, on voulait annoncer ça. Il passe le lundi soir à 20h ou 21h, c'est dans le cadre du festival Michetol à nous. Donc je crois qu'il faut prendre le bus 122 à Mairie de Montreuil et s'arrêter à l'arrêt Clos Français. Et puis le lendemain soir, le mardi, donc c'est lundi 7 avril, et mardi 8 avril à 21h, il passe au Théâtre des Roches, c'est au 19 rue Antoinette à Montreuil. Donc voilà, et puis on voulait annoncer aussi un concert du Mili, justement, dont on parlait, donc le mouvement interlycée indépendant, ça y est, je me suis enfin souvenue du deuxième mot, c'est inter. Et du coup, ils organisent un concert le samedi 26 avril à 17h au Transfo, donc qui est un espace occupé à Bagnolet, donc c'est au 57 avenue de la République à Bagnolet, du coup, la soirée commencera à 17h le 26 avril. Et puis voilà, et puis la manif dimanche.
Et donc l'émission sera rediffusée bien mardi à partir de 8h le matin. Et on souhaite courage, force et détermination à toutes celles et tous ceux qui sont enfermés, qu'ils aient des papiers, qu'ils aient pas de papiers. Et qu'on se souvienne que nos ennemis, c'est toujours les mêmes, c'est les riches, c'est les patrons. Et voilà.
Salut l'autorité. Un petit big up aussi à ceux qui sont enfermés en hôpital psychiatrique. Big up à Maria. Elle se reconnaîtra, mais elle ne peut pas nous écouter de toute façon.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas. De...